السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، en cette soirée du 21 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1437 de l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui correspond au 31 décembre 2015, nous entrons dans le 8e cours, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'étude de cet écrit bénéfique de l'aimable Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, qu'il a intitulé « Les leçons importantes à toute la communauté » et qui a été commenté par l'aimable Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans la fin de la première leçon, dans laquelle nous étudions l'explication des derniers chapitres du Coran. Ici, nous sommes à la fin, l'explication de Surat al-Ikhlas, al-Falaq, et enfin Suratu an-Nas. Les trois dernières surahs, les trois derniers chapitres du Coran. Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Bismillahirrahmanirrahim, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ » Selon les sens rapprochés, dit « C'est lui Allah, l'unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Tabaraka wa ta'ala. Cette magnifique surah, intitulée Suratul Ikhlas, qui a été traduite par le monothéisme pur, équivaut dans ses récompenses à un tiers du Coran. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a démontré en disant à ses compagnons un jour: Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thuluth al-Qur'an fi layla? L'un d'entre vous est-il dans l'incapacité de réciter en une nuit un tiers du Qur'an? Fashaqqa dhalika alayhim. Ceci était pour eux contraignant, pour les compagnons. وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله. Ils dirent: ô messager d'Allah, qui d'entre nous pourrait le supporter? فقال صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. C'est alors que le prophète صلى الله عليه وسلم leur dit: Allah, l'unique, le Samad, dont nous allons expliquer le sens, équivaut à un tiers du Coran. Lorsque nous disons qu'elle équivaut à un tiers du Coran, cela ne veut pas dire qu'en récitant un tiers du Coran, le musulman n'a plus besoin de réciter et de lire un tiers du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il s'agit ici de la récompense, plutôt. Et la raison pour laquelle cette sourate, ce chapitre béni du Coran, équivaut à un tiers, c'est le fait que dans le Coran, comme les savants l'ont mentionné, il y a trois grands sujets principaux. Le premier grand sujet principal et essentiel du Coran, ce sont tous ces versets et tous ces chapitres ayant une relation avec les informations concernant Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce sont des versets où Allah, exalté soit-il, se décrit, nous parle de lui, nous appelle à l'adorer et nous interdit d'adorer autre que lui, tabaraka wa ta'ala. La deuxième partie principale du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce sont les versets où Allah, tabaraka wa ta'ala, mentionne les nations passées, ce qu'il est advenu de ceux qui ont désobéi à Allah, et ce qui a été gagné par les obéissants qui suivaient les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que dans le Coran, il y a beaucoup d'histoires des peuples passés, notamment les peuples des prophètes et les relations que ces derniers ont eues avec leur peuple. Le troisième grand sujet principal du Coran, ce sont les versets qui traitent des règles de la jurisprudence islamique, de ce qui est licite et de ce qui est illicite, le halal et le haram. Ainsi, la surat Qul huwallahu ahad, suratul ikhlas, traite du sujet de l'information concernant Allah subhanahu wa ta'ala, car dans celle-ci, Allah va se décrire et il va se présenter à nous, tabaraka wa ta'ala, en nous donnant ses attributs de perfection, tabaraka wa ta'ala. Elle a donc en elle-même pris un tiers du Coran dans les trois grands sujets principaux. C'est la raison pour laquelle elle équivaut à un tiers du Coran. Cette sourate a été choisie pour démontrer le monothéisme, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah est unique. Qul huwallahu ahad, dit, c'est lui Allah, l'unique, subhanahu wa ta'ala. De même que suratul kafirun, dont nous avons entendu le commentaire, a été choisie pour nous démontrer également le monothéisme, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La nuance entre les deux sourates est le fait que le monothéisme, d'un point de vue, se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle at-tawhid ul-ilmi, le monothéisme scientifique, c'est-à-dire en rapport avec la science, c'est-à-dire que c'est une connaissance que l'on a qui fait que l'on comprend qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul de par ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala, et que nul ne lui est égal. Et dans suratul kafirun, nous trouvons la deuxième catégorie de monothéisme, qui est le fait de croire et de n'adorer, pardon, qu'Allah seul sans associé. Je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Il y a donc le monothéisme qui est dans le cœur, il est relatif à la connaissance que l'on a du Seigneur et du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et va découler de celui-ci la deuxième catégorie qui est le monothéisme mis en pratique à travers le culte et les actes de dévotion. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Qul huwa Allahu ahad » dit, c'est-à-dire dit au prophète, adresse-toi à ces gens-là et dis-leur « Huwa Allahu ahad » c'est lui Allah l'unique. Et sachez que cette parole dans le Coran a toute son importance, car ceci nous montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne dit que ce qu'Allah lui a ordonné de dire et de transmettre, subhanahu wa ta'ala. On voit donc l'erreur dans laquelle sont tombés ceux qui, à cause de leur incompréhension et de leur égarement, ont dit qu'il faut enlever la parole qul du Coran sous prétexte que le messager est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci car ils n'ont pas compris la sagesse de ce terme. Ce terme a toute son importance puisqu'il nous enseigne qu'en réalité, en matière de religion, nous ne disons que ce qu'Allah nous a ordonné de dire, exalté soit-il. Puis Allah nous dit, « Hu Allahu ahad » c'est lui Allah l'unique. Certes, Allah a nul égal, ni associé, ni semblable, ni quelqu'un pour lui ressembler. Il n'a aucun égal en lui-même, tabaraka wa ta'ala. Il n'a aucun égal dans sa seigneurie. Il est le seul à créer, à octroyer la subsistance, à guérir, à guider qui il veut, égarer qui il veut, faire miséricorde à qui il veut, donner et reprendre ce qu'il veut, à qui il veut et de qui il veut. Tabaraka wa ta'ala, il est unique, il est parfait dans sa parole, dans sa révélation, dans l'envoi de ses prophètes. Il est unique et parfait dans tout ce qui vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Allahu samad, c'est lui Allah, celui qu'on appelle as-samad. Si je lis la traduction, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. En réalité, le terme samad est un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui désigne ou qui signifie celui qui a les noms et les attributs complets, parfaits. Il est exempt de tout défaut, de toute défaillance. Il est parfait dans l'autorité et le pouvoir qu'il a sur ses créatures. Également, le terme Samad signifie الذي تصمد إليه الخلائق, celui dont les créatures se dirigent vers lui lors du besoin. Et c'est pour cela que dans la langue arabe, le chef de la tribu est appelé le samad de la tribu. Pourquoi ? Car lors d'un différend que la tribu rencontre, et s'il y a une mésentente entre des membres de cette tribu, ils se dirigent tous vers le chef de cette dernière. Allah subhanahu wa ta'ala est as-samad par excellence. C'est vers lui que toutes les créatures se dirigent lors du besoin. Tabaraka wa ta'ala. Car nous sommes tous besogneux et avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que lui n'a besoin de personne. Exalté soit-il. Et parmi ce qui nous montre l'unicité d'Allah et le fait qu'il est le seul vers lequel toutes les créatures reviennent, ce qui va suivre dans cette sourate, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Allah n'a pas d'enfant, tabaraka wa ta'ala, car avoir un enfant en soi est en réalité un besoin. Celui qui recherche à avoir un enfant, c'est parce qu'il a besoin d'une compagnie, d'une source de joie, de quiétude et de repos. Mais Allah est tout puissant et n'a pas besoin d'une créature pour lui procurer joie, source ou repos. Allah n'a pas d'enfant et il n'est pas engendré, subhanahu wa ta'ala, car il est parfait. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui, ni pareil, semblable, ressemblant, ni proche. Tabaraka wa ta'ala. Il a atteint la perfection que nul autre que lui ne partage avec lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi s'achève l'explication de Suratul Ikhlas. Vient après elle Suratul Falaq, l'aube naissante. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il en vit. Suratul Falaq, le terme Falaq signifie en réalité l'action de faire fendre quelque chose. On l'a traduit par l'aube naissante du fait qu'il s'agit ici de l'action qu'Allah fait lorsqu'il fait fendre la nuit par l'arrivée du jour à travers l'aube naissante. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans un verset, Allah se décrit lui-même dans Suratul An'am, les bestiaux, et dit « Faliqul Isbah » celui qui fait fendre l'aube naissante, tabaraka wa ta'ala. Ici, Allah nous ordonne de chercher auprès de lui le refuge, car il est le Seigneur de l'aube naissante, celui qui fait fendre la nuit par l'arrivée du jour au beau matin, subhanahu wa ta'ala. Contre quoi est-ce qu'on demande la protection d'Allah? Min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé, c'est-à-dire de façon générale, le mal de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah va nous donner un mal bien plus particulier, wa min sharri ghasiqin idha waqab, c'est-à-dire contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Le terme ghasiq est un nom qui est donné à la nuit. C'est un nom qui est donné à la nuit, idha waqab, c'est-à-dire quand elle tombe. Je cherche le refuge auprès d'Allah, le Seigneur de l'aube naissante, celui qui fait naître le jour, contre le mal qui a lieu la nuit lorsque elle tombe. Pourquoi ici on a particulièrement parlé de la nuit? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien enseigné que la nuit, les démons se déploient. C'est la raison pour laquelle il enseigne à celui qui a des enfants qu'il faut les faire entrer à la maison lors du coucher du soleil. Également, fermer les fenêtres. Ceci car les démons se déploient. Ici, il y a un lien entre le premier verset, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, l'aube naissante, et le troisième verset, contre le mal de la nuit lorsqu'elle tombe. Ceci pour nous enseigner, comme l'a souligné l'aimable, le très grand savant, le Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la puissance d'Allah, du fait que lorsque la nuit tombe, toutes sortes de maux se propagent, et ça donne au mal ceux qui s'y adonnent, que ce soit ceux qui désobéissent à Allah à travers le vol, ou alors à travers d'autres actes similaires, comme les immoralités, comme la fornication, et bien d'autres choses encore. Et lorsque le soleil se lève, le mal diminue sur terre, car la discrétion disparaît. Les gens sont susceptibles d'être vus, et c'est la raison pour laquelle Allah nous ordonne de l'implorer, lui, qui fait tomber, qui fait lever le soleil, de lui demander la protection contre le mal de la nuit, subhanahu wa ta'ala, car quand il fait lever le soleil, le mal de la nuit s'en va par sa puissance, et ceci nous montre qu'en réalité, nous sommes assujettis à l'ordre d'Allah, nous sommes faibles et besogneux, nous sommes des serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah continue et dit, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, ce qui veut dire contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Celle qui souffle sur les nœuds, ce sont les mauvaises âmes, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, que ce soit des femmes ou alors des hommes qui ont des mauvaises âmes. Il s'agit particulièrement ici de ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, al-sihr, wal-iyadhu billah. Et ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, les sorciers ou les sorcières, ont recours à un acte qui consiste à faire des nœuds. Ça peut être avec des ficelles ou des cheveux et toute autre chose. Et lorsque le nœud est fait, c'est comme à l'image de quelqu'un qui a signé un contrat. Ici, le contrat est avec le diable, wal-iyadhu billah. Le mal va avoir lieu tant que le nœud est fait. C'est pour cela que le meilleur moyen d'annuler un acte de sorcellerie et de retrouver cette chose et de la dénouer, comme on nous l'a enseigné, walhamdulillah. Et ceci nous montre que la sorcellerie a un impact réel. C'est une réalité affirmée par les textes. Et quiconque ne croit pas à cette réalité aura démenti un texte du livre d'Allah et s'exposera alors à un danger sans pareil. La sorcellerie peut atteindre l'individu touché. Elle peut le rendre malade, elle peut faire se séparer un couple et bien d'autres choses tout aussi mauvaises les unes que les autres. Nous implorons Allah de nous en préserver. Puis Allah dit, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ, et contre le mal de l'envieux quand il envie, le jaloux quand il jalouse. Et ce qui est appelé al-hasad en arabe, la jalousie, c'est le fait de voir quelqu'un jouir d'un bien quelconque et de souhaiter que ce bien disparaisse de lui par jalousie. Dans ce verset, Allah nous montre que l'envieux, le jaloux, peut nuire à celui qui est envié et jalousé simplement en éprouvant pour lui de la jalousie. Il peut découler de cette jalousie beaucoup de maux, parmi lesquels le mauvais œil dont nous a parlé le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et qui justement découle de la jalousie. Ainsi, cette sourate, suratul Falaq, est vraiment une sourate bénie pour demander la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Vient après celle-ci, suratul Nas, bismillahir rahmanir rahim, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit indigne ou un être humain. Suratul Nas est le dernier chapitre du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans celui-ci, Allah, exalté soit-il, nous ordonne de chercher refuge auprès de lui, lui qui est qualifié comme étant le Seigneur des hommes, celui qui en est le pourvoyeur, celui qui leur octroie la subsistance, celui qui est leur administrateur, tabaraka wa ta'ala. Malikin Nas, le roi des hommes, ilahin Nas, la divinité, celui qui mérite l'adoration des hommes, tabaraka wa ta'ala. On retrouve ces trois attributs dans ces trois premiers versets et également dans Suratu al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On retrouve, revenez à l'explication et vous verrez, on retrouve ces trois attributs qui sont la divinité, la seigneurie et la possession, tabaraka wa ta'ala. Également, certains savants ont mentionné quelque chose de très intelligent dans leur compréhension. Allah nous dit dans Suratul Fatiha de dire Iyya wa Iyyaka nasta'in, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Et ici à la fin du Coran, la dernière surah, nous disons Qul a'udhu bi rabbil falaq, dit je cherche la protection, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Comme si Allah voulait nous enseigner que lorsque l'on entame une chose et que l'on entreprend quelque chose, on doit demander l'aide d'Allah. Puis à la fin de cette chose, on doit demander la protection d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis Allah nous dit, min sharril waswasil khannas, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Le terme waswas est issu du verbe waswasa. Et le verbe arabe waswasa signifie le fait de faire des suggestions ou alors d'insuffler. Ici, nous parlons des suggestions du diable et de ses insufflations lorsqu'il incite l'homme au péché et à désobéir à Allah. Ou alors, lorsqu'il dérange l'homme, il le rend malade au point où celui-ci déprime. C'est ce qu'on appelle al-waswasa. Al-waswas ici, c'est donc le qui a été traduit comme le mauvais conseiller, c'est celui qui donne de mauvaises suggestions, celui qui incite au mal, celui qui perturbe, celui qui dérange la personne dans son fort intérieur. Puis il a été décrit en même temps par al-khannas, c'est-à-dire furtif. Le verbe khanasa en arabe signifie se cacher après avoir apparu. Ici, nous parlons du diable qui, lorsqu'il insuffle ses suggestions, incite au mal, dérange et perturbe le serviteur, quand celui-ci se met à évoquer Allah et à se rappeler de lui, que ce soit en disant « La ilaha illallah » ou encore « A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim », il prend immédiatement la fuite. Le diable prend immédiatement la fuite et cesse d'insuffler les suggestions à ce serviteur qui était touché par Al-Wasawis. Il est en même temps un mauvais conseiller, mais si le serviteur d'Allah se rappelle de son Seigneur, mentionne son nom et l'invoque, il devient furtif. Il prend la fuite et se cache après avoir apparu. Walhamdulillah, ceci nous montre la force d'Allah et la faiblesse de son ennemi, Al-Shaytan Ar-Rajim. Il y a également un encouragement à multiplier les formules d'évocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et le fait que ceci est le meilleur moyen de se voir préservé du mal du diable. Puis Allah termine et dit, Alladhi waswisu fi sudurin nas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Le diable, qui incite au mal, souffle ses suggestions dans les poitrines. Ses suggestions sont diverses. Ça peut être tantôt des mauvaises croyances qu'il incite le serviteur à adhérer, auxquelles il incite le serviteur à adhérer. Et ça peut être des tentations vers le mal, un penchant vers le péché et tout ce qui déplaît à Allah, tabaraka wa ta'ala. Remarquez ici qu'il souffle le mal dans les poitrines des hommes et il n'a pas dit dans le cœur. Car les savants ont noté que le diable s'approche au début de la poitrine. Puis s'il arrive à y pénétrer, à ce moment-là, il entre dans le cœur. Mais si le serviteur évoque Allah, il se voit préservé de son mal. Allah termine cette surah et dit « Min al-jinnati wan-nas » qu'il soit un djinn ou un être humain. Nous voyons donc que le mauvais conseiller, celui qui insuffle les suggestions, peut en réalité être un djinn, mais il peut aussi être un homme. Il incombe donc aux musulmans de comprendre la parole d'Allah, de comprendre et d'apprendre au minimum les derniers chapitres du Coran, à partir de Sourate Az-Zalzala, la secousse, jusqu'à Sourate Un-Nas, de multiplier l'écoute de l'explication de ces versets afin de pouvoir réciter des versets dont on comprend l'essence et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi s'achève la première leçon de ces leçons importantes dirigées par le Cheikh Ibn Baz à toute la communauté et commentées par le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les récompense avec la plus grande des largesses, qu'il nous récompense aussi pour ces moments que nous passons à s'inscrire dans sa religion. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.